Euradio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Enquête d'Europe, vous êtes sur Euradio et nous sommes Mathis et Axel. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons à l'euthanasie en France et en Europe. Pour faire donc un petit rappel, au début de l'année 2021, l'Espagne devient le sixième pays du monde à légaliser l'euthanasie à la suite d'un texte adopté très largement par le Parlement. Celui-ci précise que l'euthanasie devient possible pour les malades graves et incurables, alors que parallèlement, le Parlement portugais, quant à lui, adopte un texte similaire, mais celui-ci est ensuite invalidé par les juges constitutionnels.
Le débat sur le fin de la vie demeure présent en Europe, même si la pandémie de Covid-19 a très largement occupé les politiques de santé depuis 2020. En France, les parlementaires ne sont pas parvenus à se mettre d'accord en avril dernier sur la proposition de loi présentée par le député Olivier Falorni, dans des conditions sur lesquelles nous reviendrons. Un rapide tour des législations européennes démontre que si certains pays ont des positions univoques, l'euthanasie est strictement interdite en Grèce ou en Roumanie par exemple, elle est en revanche légale aux Pays-Bas, qui a été le premier pays du monde à avoir franchi ce cap dès 2001, ou encore en Belgique, qui l'autorise même pour les mineurs. D'autres pays, dont la France, présentent des singularités qui rappellent que les débats et les nuances autour de l'euthanasie sont plus subtils et plus complexes que ce que l'on pourrait penser aux premiers abords, avec des notions parfois mal connues entre euthanasie passive, euthanasie active, suicide assisté ou encore acharnement thérapeutique. Pour éclairer ces enjeux, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Nicolas Aumônier, philosophe des sciences à l'Université de Grenoble-Alpes, qui a publié en 2017 avec Bernard Beignet et Philippe Letellier un ouvrage intitulé « L'euthanasie dans la collection Que sais-je ?» et de M. Pierre Juston, doctorant en droit public et administrateur à l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, la voix militante et associative pour l'instauration du droit à l'euthanasie en France. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, pour commencer, peut-être pour faire une mise en contexte et voilà, essayer de définir un peu de quoi nous allons parler, est-ce que, peut-être, Monsieur Aumônier, pour commencer, en faisant référence à votre ouvrage, vous pourriez nous parler un petit peu de l'histoire du mot euthanasie, du terme euthanasie et du sens qu'il a pris jusqu'à aujourd'hui?
Le terme euthanasie a plusieurs sens. Le premier sens étymologique, c'est bonne mort, et donc il s'agit de souhaiter pour soi, pour les proches, une mort douce ou préférable. Et on remarque que chez certains auteurs anciens, le fait pour des lépreux de préférer être massacrés par les ennemis qui ont pris la ville qui les alimentait, aux portes de laquelle ils s'alimentaient, est considéré par eux comme une mort jugée préférable, et que Amien Marcellin, je crois, ou c'est Flavius Joseph, considère comme une bonne mort. Donc une mort par euthanasie, ça n'est pas nécessairement une mort sans douleur, au sens des auteurs antiques. Et puis, peu à peu, le mot devient le synonyme de rapport bénéfice-risque ou plaisir-peine. Lorsque la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, lorsqu'il y a trop de douleur et plus assez de plaisir, eh bien, ça peut être l'occasion de décider d'une euthanasie. Il y a une époque tragique dans notre monde, c'est ce qui s'est passé entre le 1er septembre 39 et août 1941, où, sous couvert de fondations charitables pour des soins hospitaliers, s'est déclenchée l'opération T4 de Tiergartenstrasse 4, 4 rue du Zoo, lorsque le gouvernement nazi a regroupé les malades, les gens qui n'étaient finalement que leur médecin voulait protégés des camps de travail où ils auraient trouvé incontestablement la mort parce qu'ils n'étaient pas capables de travailler. Et donc, ils ont été regroupés dans des fondations charitables pour des soins hospitaliers. Et c'était en fait un regroupement pour expédition par train et chambre à gaz. Ça a été, semble-t-il, le premier essai en grand du gaz zyklon B. Et ensuite, finalement, dans nos sociétés libéral, individualiste, est née la revendication d'un droit à l'euthanasie, qui est un droit en fait subjectif, qui n'est pas un droit objectif, et qui demande que l'individu puisse mettre un terme à sa vie lorsque il le désire, lorsqu'il estime que la somme des contrainte l'emporte sur la somme des joies ou des plaisirs. Voilà un petit peu, à grands traits, les différents sens du mot « euthanasie ». Et il y a débat pour savoir si, disons, l'euthanasie d'État ou l'eugénisme d'État, qui a vu le jour donc dans la période noire que j'ai, à tout point de vue, que j'ai mentionnée, avait quelque chose à voir avec les décisions d'euthanasie libérale, individualiste, qui voit le jour aujourd'hui dans un certain nombre de sociétés. Voilà. Mais on peut, à partir de là, lancer le débat.
Et est-ce que vous estimez, du coup, que, effectivement, cette connotation péjorative, extrêmement péjorative, qui s'est attachée au terme euthanasie dans cette sombre période, explique pourquoi, aujourd'hui, autour de l'euthanasie, tournent d'autres termes, peut-être d'autres notions. On parle parfois de suicide assisté, d'euthanasie passive. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on a développé tant de notions? Et puis, peut-être, qu'est-ce qui différencie concrètement ces différentes notions entre euthanasie active, passive? Est-ce que ça a un sens? Entre suicide assisté, acharnement thérapeutique? Voilà, ce sont des termes qu'on entend régulièrement dans le débat autour de ces questions. Est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer là-dessus?
En fait, jusqu'à la loi Kouchner du 4 mars 2002, un médecin risquait d'être traduit en justice, d'être attaqué en justice, s'il ne mobilisait pas absolument tous les moyens pour traiter, soigner son patient. La loi du 4 mars 2002, qui a finalement été qui a été reprise finalement dans la première loi Leonetti du 22 avril 2005, c'est la reconnaissance du droit de chaque patient de refuser un traitement, même si sa vie doit être abrégée de ce fait. Donc c'est le droit au refus d'un traitement, c'est donc le droit, bien sûr, de refuser l'acharnement thérapeutique, mais c'est surtout pour le médecin le fait de ne plus être condamné s'il ne met pas absolument pas tout en œuvre, et donc s'il subordonne ses actes à l'acceptation du patient. Donc il y a une sorte d'affirmation de ce que le patient est aux commandes de sa vie, en tout cas pour accepter ou refuser des soins. Et donc, ça, c'est l'acharnement thérapeutique, qui est évidemment, quand on emploie cette expression, on est dans quelque chose de négatif, bon, et on le comprend. Par rapport à cela, des garde-fous se sont développés, par exemple, les directives anticipées. Mais ça n'est pas tout à fait exactement la même chose. Une directive anticipée, c'est pour dire, demander que quelque chose soit fait ou ne soit pas fait lorsque on ne sera plus en état de communiquer. Or là, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que on voit bien que quand tout va bien, les gens peuvent faire des directives anticipées en disant surtout ne faites rien, etc. Et lorsqu'ils arrivent à ce moment-là et qu'éventuellement ils ne peuvent plus communiquer, il y a bien des témoignages de gens qui tremblent en disant rétrospectivement « Ah, nous avons eu très très peur que vous n'ouvriez les directives anticipées que j'avais écrites dans mon portefeuille, que vous n'ayez accès à ça parce que en fait j'avais changé d'avis et je ne pouvais plus communiquer. » Donc c'est ça, la grande difficulté, c'est que quand la vie est extrêmement fragile, le peu de vie qui reste, c'est le tout de la vie pour la personne en question.
Et donc, par rapport à cette législation en France donc, qui a été soumise à des évolutions, et si on en revient donc, à quelque chose de plus récent, donc en avril 2021, il y avait un débat parlementaire qui a été organisé durant un temps de niche parlementaire. C'était le texte déposé par Olivier Falorni, donc qui reprenait, et dans la suite de ces anciennes lois, donc le droit à la fin de vie libre et choisi. Le terme, c'est qu'un seul article avait été voté. Et donc, on aimerait bien savoir quelle proposition en soi. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails, peut-être, sur cette proposition qui avait été faite? Je me tourne vers vous, Monsieur Juston.
Oui, tout d'abord, effectivement, je suis en accord avec un certain nombre de points qui ont été développés, notamment historiques, sur le cheminement de l'euthanasie, bien que, effectivement, nous, ce que nous défendons à la DMD, hein, je le répète parce que ça me semble important, même si ça paraît évident, c'est une euthanasie ou un suicide assisté qui est choisi par la personne qui se trouve dans une situation très spécifique avec des conditions évidemment qui doivent être respectées. Il ne s'agit pas d'une libéralisation totale pour n'importe quelle personne qui souhaiterait dans un coup, comme on le disait tout à l'heure, entre désir de vivre, plaisir et souffrance, décider dans toutes les situations. Il s'agit de situations très spécifiques, notamment on pourrait parler de cas de personnes pour lesquelles aujourd'hui le cadre législatif ne répond pas. Je pense notamment aux maladies de Charcot qui, aujourd'hui, en tout cas pour un certain nombre de cas, on arrive à mourir dans des souffrances atroces et qui souhaitent simplement pouvoir, sans doute pour une partie d'entre eux, vivre au maximum, qu'ils puissent vivre avec cette maladie, mais ne pas s'étouffer dans d'atroces souffrances devant leurs proches et dire « j'aimerais simplement choisir le moment et la manière de pouvoir partir parce qu'ils estiment que c'est attentatoire à leur dignité ». Alors, je suis d'accord évidemment avec l'idée que ce droit est un droit subjectif, hein, ça a bien été indiqué, hein, mais en l'occurrence, justement, c'est souvent ici qu'il y a des difficultés à comprendre. C'est-à-dire que souvent dans le débat, et on l'a vu dans le débat avec un certain nombre de députés sur la proposition de loi Falorni auquel vous faisiez référence, qui disaient finalement et qui exprimaient leur opinion pour eux-mêmes. Mais sur le cadre législatif, nous, on n'est pas des militants de l'euthanasie ou du suicide assisté à proprement parler. On est des militants, effectivement, dans une logique libérale, hein, qui a été rappelée et qui est finalement le cadre de notre système législatif aujourd'hui, de nos droits et libertés. Et bien simplement que la personne puisse choisir ce qu'elle souhaite pour elle-même quand elle respecte un certain nombre de conditions. Donc c'était un peu ces éléments-là qui étaient rappelés dans la proposition de loi d'Olivier Falorni. Hein, il s'agissait de personnes qui ont une maladie incurable, donc il veut dire qu'il va les amener rapidement, enfin dans un laps de temps assez rapide, à une mort certaine, qui souffrent. Ça, c'est une deuxième condition. Donc c'est là qu'on peut définir ce qui est difficile, effectivement, en droit. Définir ce qui est une période de fin de vie. Et effectivement, il faut que la personne, et des vérifications doivent être faites de manière très importante sur son consentement libre et éclairé, que ce soit bien elle, effectivement, qui le demande et que cette demande soit réitérée. Donc, voyez, on est quand même dans un cadre qui est quand même assez restreint et qui ne concernera pas toutes les personnes qui souhaiteraient, parce que ça existe effectivement aussi. On le voit en tant qu'association de droits des patients, des personnes qui, dans leur vie, se trouvent à des moments peut-être isolés et pourraient avoir ces envies-là alors qu'ils n'ont pas de maladie incurable, qu'ils ne souffrent pas. Et donc, ils ne font pas partie des cas qui pourraient bénéficier, si cette loi était votée, eh bien soit d'une euthanasie active, soit d'un suicide assisté. Alors peut-être la différence rapidement entre le suicide assisté et l'euthanasie, vous avez posé la question au départ, c'est que le suicide assisté, c'est ce qui se passe notamment par exemple en Suisse, même s'il n'y a pas de loi à proprement parler, sont des personnes qui peuvent matériellement, en réalité, avec un produit, faire le geste pour pouvoir partir. L'euthanasie, là, il y a véritablement l'intervention directe d'un tiers qui doit le faire, en tous les cas si une loi est votée, parce que la personne n'est plus en capacité de le faire. Voilà. Donc, il y a une différence effectivement fondamentale entre les deux. Donc, moi, je répète, ce qui est important, en tout cas pour nous, avec ma casquette de représentant de la DMD ici, c'est qu'on est des militants du choix de la personne, et avec cet élément subjectif qu'est la dignité. Alors, juste un petit point qui me semble important, c'est que la notion de dignité, qui est très difficile à appréhender, que ce soit, je pense d'ailleurs, en philosophie comme en droit, mais en tous les cas, en droit, cette notion de dignité, elle est souvent caricaturée, soit d'un côté, soit de l'autre, soit on l'envisage comme une notion éminemment subjective, et c'est la personne qui va définir ce qui est digne ou pas, et effectivement, ce visage de la dignité existe en droit. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une autre dignité, qui s'impose à l'individu avec un certain nombre d'éléments objectifs qui sont choisis dans des sociétés démocratiques et où l'individu n'est pas totalement propriétaire de son corps. Donc moi je pense que le droit à l'euthanasie justement ou au suicide assisté est empreinte aux deux dignités, c'est-à-dire que les conditions viennent justement matérialiser la dignité objective qui s'impose à l'individu et puis après le fait d'ouvrir et de permettre une liberté quand même à l'individu qui respecte toutes ces conditions, eh bien, c'est plutôt rappel en tout cas l'idée de la dignité libérale et subjective où l'individu estime ce qui est digne ou pas pour lui. Et encore une fois, nous, si une telle loi était votée, tous les choix seraient protégés. En fait, c'est ce que nous essayons d'exprimer, c'est-à-dire qu'y compris des gens qui ne voudraient surtout pas, pour des convictions quelles qu'elles soient, religieuses, philosophiques ou autres, bénéficier d'un tel service, eh bien en faisant des directives anticipées, déjà tout le monde et leurs proches le savent, et ils sont protégés dans leur choix, puisqu'aujourd'hui, en France, il existe de nombreuses dérives avec beaucoup d'euthanasie clandestine, parce que les réalités font que certains nombres de médecins, malheureusement, pratiquent ce genre de gestes en toute illégalité, Et donc les dérives existent aujourd'hui en France parce que justement le cadre n'est pas suffisant.
Alors peut-être parce que leur tourne, on va essayer d'aborder un nouveau point. On parle de l'échec finalement de cette loi qui n'est encore pas passée en avril 2021 et c'est pas la première fois que le sujet revient au Parlement. Qui finalement aujourd'hui en France s'oppose? On a pu beaucoup mettre l'accent sur les autorités morales et religieuses, mais on voit que dans un pays comme l'Espagne, à très forte majorité catholique, c'est pourtant un texte qui a été largement approuvé. La DMD vous communique en tout cas en disant que l'opinion française est également très largement favorable à une loi de ce genre. Alors qui sont aujourd'hui les pôles de résistance? Peut-être Monsieur Aumônier pour revenir à vous.
Alors, c'est une affaire complexe. Moi, je vais dire d'abord que je respecte évidemment les choix militants et je m'accorde volontiers avec les militants de la DMD pour dire que dans cette affaire, la notion de liberté est quelque chose de très important. Et donc je suis, comme eux, j'imagine, un défenseur de la notion de liberté. Peut-être n'avons-nous pas tout à fait la même notion de liberté. En gros, la question, c'est de savoir ce qui serait modifié si la loi passait. Si une loi autorisant l'euthanasie à certaines conditions passait. Alors, d'abord, je crois qu'il ne faut pas être naïf. L'histoire des évolutions législatives aux Pays-Bas et en Belgique sont là pour nous avertir que les conditions, les critères, les fameux critères de minutie mis en place aux Pays-Bas et en Belgique ne tiennent pas très longtemps et que il faut savoir qu'une loi vit en réalité, une fois qu'elle est promulguée, sa propre vie, avec sa propre jurisprudence et l'usage qui en est fait. Et donc, il y a un usage de la loi aux Pays-Bas et en Belgique qui est finalement très libéral. Le contrôle est a posteriori, c'est-à-dire que l'obligation de déclarer, il y a une possibilité de déclarer, mais on ne vous met pas du tout en prison et ne vous accuse de rien si vous ne déclarez pas et si vous êtes borderline. Par ailleurs, aux Pays-Bas et en Belgique, on peut dire que, en gros, tous les exécutants et tous les gens qui seraient à même de contrôler sont tous favorables à l'euthanasie. Il y a donc un système de l'entre-soi qui est problématique par rapport à la mise en place d'un minimum de pluralisme sur la question. Bon, ça c'est un premier aspect des choses. Donc, les conditions restrictives comme prétendument protectrices d'un choix alternatif de citoyens qui ne voudraient pas d'euthanasie pour eux, je pense que ça ne fonctionne pas. Par ailleurs, il y a une deuxième leçon qui doit nous éclairer, c'est celle très généralement des travaux, par exemple, de Jacques Ellul, sur la notion de progrès technologique. Une fois qu'une nouveauté a pris, vous êtes absolument ringard si vous n'y faites pas appel. Bon, qui, à part peut-être des choix extrêmement militants et très 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 minoritaires, quels sont ceux d'entre nous qui n'ont pas de téléphone mobile, quelle que soit par ailleurs la catastrophe écologique que représente l'usage de certains métaux rares, certaines terres rares, etc., qui impactent la fabrication de ces objets. Bon. Donc, c'est tellement répandu que si on n'y fait pas appel, on est hors jeu, hors circuit. Or, il faut bien se représenter les choses. Nous sommes là en train de discuter d'arguments philosophiques, éthiques, qui sont éminemment respectables, de part et d'autre. Mais le problème n'est pas là. Pourquoi est-ce que à chaque refus, on a l'impression que, à chaque refus législatif, on a l'impression que ça sera pour le coup d'après? Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Le suicide assisté coûte environ 10 000 euros en Suisse, là où il est pratiqué. Donc Exit, c'est pour les Suisses, et Dignitas, c'est pour tous les étrangers. Donc, c'est pas complètement anodin comme... Mais ça, encore, c'est la liberté de la personne. L'euthanasie, le coût d'une euthanasie, on pourrait dire, est assez mince. Il y a les produits, il y a une ou deux consultations, il y a l'acte, on n'est pas dans 10 000 euros. Bon. En revanche, le coût visé, c'est évidemment un coût escompté d'économie sur les fins de vie. Je dois dire que quand on regarde les associations qui soutiennent l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, donc il y en a 7 sur leur site, la Fédération française de crémation, l'Union des familles laïques, la Libre Pensée, le Parti radical de gauche, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération française de l'ordre maçonnique et la mutualité française. C'est donc bien qu'il s'agit de quelque chose qui coûte les fins de vie, en tout cas de l'idée qu'on s'en fait. Et je me rappelle avoir participé à des débats parlementaires, à des tables rondes sur la fin de vie, et je me souviens d'André Comte-Sponville en 2001 disant « Écoutez, on ne va pas imposer l'euthanasie à ceux qui ne la souhaitent pas, mais les fins de vie coûtent tellement cher qu'on aurait vraiment tort de s'en priver pour ceux qui la veulent. » Donc, il ne s'agit pas de ceux qui débattent, si vous voulez, d'arguments philosophiques, ou juridique sur la notion de dignité, est-elle subjective, est-elle objective, quoique ce soit extrêmement intéressant, et je pense qu'il y a des choses à dire sur la dignité objective. À partir du moment où, imaginez un seul instant, comme dans l'ouvrage de Damien Leguet, que ce soit un système d'intelligence artificielle qui décide que les critères objectifs sont remplis et que finalement vous êtes euthanasié. Parce que on a épuisé votre crédit de fin de vie et de soins de fin de vie, et donc c'est la machine qui décide toute seule.
Et donc je me permets de revenir sur un point, parce que bon, on l'a vu, les résistances, vous nous parliez du coup du cas de l'exemple belge,
oui.
Et donc peut-être ce que vous avez qualifié donc de la mise en exécution des lois, et donc peut-être des dérives potentielles qui seraient un certain blocage. Et je voudrais vous poser une question en revenant du coup à vous, monsieur Juston, en revenant sur ce point, la DMD est allé, il me semble, samedi dernier, en Belgique, justement, tenir une table ronde ou une réunion à ce sujet. Et donc, est-ce que, selon vous, toutes ces résistances peuvent être, du coup, sur le cas français, peuvent être nées ou tirées, du coup, de ce regard qui est porté sur le cas belge, et savoir si, justement, ce ne serait pas constitutionnellement que notre point de vue, il y aura des résistances.
Bien sûr. Rapidement, en fait, non. Nous avions notre journée annuelle des délégués, en fait. Nous sommes organisés en délégation départementale et effectivement, les responsables belges sont venus à cette journée, donc qui était vendredi et samedi dernier, pour d'ailleurs nous adresser un message qu'ils en avaient un peu assez, des mensonges qui étaient assénés et répétés, parfois par des ministres de la Santé en France. Ça a été le cas notamment pendant assez longtemps de Madame Agnès Buzyn, qui était défavorable, et c'est bien son droit, à une évolution législative, mais en s'appuyant sur la Belgique et en critiquant le modèle belge, ce qui est tout à fait évidemment son droit, mais sans véritablement mettre en lumière des cas problématiques et beaucoup de cas problématiques. La réalité, c'est que les dérives, ce que j'ai dit tout à l'heure, elles ont lieu aujourd'hui en France et depuis longtemps. Un certain nombre d'études, notamment de l'INED, donc c'est pas la DMD, le démontre assez bien. Mais au-delà de ça, sur l'aspect belge...
Juste sur le point de ce que j'ai souligné, c'est-à-dire l'entre-soi du système en Belgique et aux Pays-Bas, l'entre-soi juridique et médical, et le fait qu'il n'y ait pas de déclaration systématique. Il y a une déclaration volontaire, et celle-ci est appréciée a posteriori. Moi, je ne sais pas ce qu'a dit Madame Buzyn, il me semble que c'est une,
bien,
c'est une critique de fond.
C'est pas une critique,
ça dépend de quel côté vous voulez, mais c'est un fait, ça.
Peut-être l'intérêt d'être en retard, s'il y a un intérêt, parce que moi j'estime que nous sommes en retard par rapport à ce problème, il n'y a pas de Belges qui viennent en France, il y a beaucoup de Français qui vont en Belgique, qui vont en Suisse aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas écoutés, parce qu'il n'est pas possible effectivement dans leur situation, eh bien, de pouvoir simplement mourir comme eux ils le souhaitent. Je vais reprendre les propos de Simone Veil, je ne pense pas qu'on ait envie de mourir de guetter le cœur. Là-dessus, sur la Belgique, bien sûr, moi j'entends bien qu'effectivement, eux ont commencé, on vous fait voter une loi il y a longtemps. Si ça nous permet effectivement de corriger un certain nombre de points, si nous légiférons sur ce point, bien sûr, et nous discutons avec les différents acteurs là-dessus. Après, sur les chiffres et sur le système belge, vous avez cité M. Leguet, vous auriez pu citer M. Le Morguedec, qui est bien connu sans doute de la région Bretagne, mais en l'occurrence, il y a beaucoup de mensonges aussi. Ce ne sont pas seulement des faits, des études qui sont réalisées par des gens qui sont idéologiquement, et c'est bien leur droit, en totale opposition avec toute avancée en la matière, pour des raisons qui sont tout à fait honorables.
Alors c'est justement la question de savoir si c'est une avancée. C'est justement la question de savoir si c'est une avancée, parce que, en fait, quand je reprends le site de la DMD. En fait, c'est ça, on sent que c'est ça l'objectif, c'est de contrôler la fin de sa vie. Alors, moi je pose la question, est-ce que l'on vit seulement pour soi, purement pour soi, ou est-ce que l'on vit pour les autres ?
Et je pense que... Avec la dignité objective et subjective, un peu des deux, simplement. C'est tout le débat est sur le curseur à poser. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous sur l'idée, effectivement. Et je me place pas dans une logique de conservatisme ou de progressisme. J'ai du mal, d'ailleurs, avec cette vision manichéenne et binaire des choses. Donc, nous serons d'accord là-dessus. Mais par contre, je voulais simplement rebondir sur un point que vous aviez dit, sur le coût. Nous, on n'a jamais cet argument du coût. Et on l'a d'autant moins qu'en Belgique, on peut effectivement se battre sur savoir ce que sont les abus ou pas. Alors, sachant qu'il y a quand même des contrôles qui ne sont pas faits qu'a posteriori, mais a priori, hein, je le rappelle également. Et après, il y a sans doute des cas effectivement où ces contrôles a priori, où ces contrôles a posteriori ne se passent pas, ce qui n'est pas normal effectivement. Mais il y a des contrôles et a priori et a posteriori. Sur les coûts, c'est important parce qu'en Belgique, ils ont eu un plan de soins palliatifs très très important, alors que nous, en France, les soins palliatifs sont dans une situation catastrophique.
Je suis d'accord avec vous. Et donc, en fait, le fait de promouvoir une loi sur la fin de vie qui permet l'euthanasie, alors qu'on est quand même déjà très très proche, on est sur la sédation continue jusqu'à la fin de la vie. Donc, on voit bien que, puisque à la fois M. Leonetti et M. Kless ont été les promoteurs de cette loi et qu'ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation, on voit bien qu'il y a une marge, il y a un bouger d'interprétation possible. Et donc, finalement, on n'est pas dans le... Donc, la grande question, je crois, c'est est-ce qu'on vit uniquement pour soi ? Et quand on parle de droit à l'euthanasie, eh bien, on est dans cette représentation d'une vie et d'une mort purement individualiste qui, je pense, contredit la réalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours un tissu familial autour. Et la grande difficulté, c'est que si une loi permettait véritablement de pousser une seringue, soit en suicide assisté, soit en euthanasie, eh bien, il y a une grande déchirure du tissu de la communauté proche, mais aussi plus lointaine. Et la grande déchirure, c'est que finalement, de proche en proche, tout le monde serait amené à se poser la question de savoir si, oui ou non, je fais appel à l'euthanasie. Ça ferait partie du contexte. Le contexte serait modifié.
Bien sûr.
Le contexte serait modifié, et c'est exactement ce qu'indique Jacques Ellul pour n'importe quelle nouveauté de progrès technologique qui est en fait qui deviendrait extrêmement contraignante. Donc, au nom de la liberté, de l'idée que je me fais de la liberté à la fois individuelle et collective, je pense qu'une loi qui permettrait l'euthanasie serait une contrainte terrible pour tous, avec en arrière-plan les organismes sociaux soucieux et l'État soucieux de faire des économies sur les fins de vie. On n'est pas du tout dans un débat moral, on est dans un débat financier, et c'est pour ça qu'il revient périodiquement.
Sur ce point, je suis en désaccord avec vous. Vous pourriez dire ça si effectivement en Belgique, pardon, il n'y avait pas eu un plan de soins palliatifs, mais bien supérieur à celui de la France qui accompagnait la loi. Donc nous réclamons un accès universel aux soins palliatifs, qui est un autre choix dans sa fin de vie, et qui est sans doute le choix que feront la majeure partie des Français. C'est le deuxième point. En Belgique, les euthanasies ou les suicides assistés concernent une minorité de personnes. La Belgique n'a pas eu de basculement anthropologique, comme le dit Michel Houellebecq, ou comme vous le dites finalement avec vos mots, sur l'aspect de liberté, de faire une société de la mort, puisque je reprends les termes qui sont employés. Ce n'est pas vrai. C'est une minorité de personnes qui, lorsqu'elles ont des maladies très spécifiques, très particulières, lorsqu'elles sont en souffrance et en fin de vie, ne souhaitent pas peut-être s'étouffer devant leurs proches, s'étouffer dans leur vomi, parce qu'il faut décrire aussi les réalités de certaines fins de vie, avec d'atroces souffrances. Et simplement, ces personnes souhaitent partir tranquillement, de manière apaisée. Et ça, beaucoup de Français le comprennent. Ce ne sont pas les sondages de la DMD, ce sont les sondages des instituts de sondage comme Ipsos, qui demandent depuis un certain nombre d'années, et c'est également le cas d'ailleurs pour les personnes croyantes, puisque souvent on parlait des freins tout à l'heure, qui est des freins religieux, eh bien un sondage avait été commandé par La Croix, le journal La Croix, là-dessus on voyait bien qu'une majorité de Français pratiquant comme croyants catholiques étaient en accord pour entre guillemets, je mets les mots entre guillemets, du coup, une avancée dans ce domaine pour permettre aux personnes de choisir lorsqu'elles sont dans ce genre de situation.
Et le fait que l'État n'ait pas de parole, alors qu'on demande depuis 20 ans au moins un plan conséquent de soins palliatifs, fait que le fait que l'euthanasie soit accordée empêcherait ce plan dans le contexte français.
On vous remercie tous les deux pour votre échange et pour vos débats, ça a été très intéressant. Pour finir, je vous renvoie évidemment dans un contexte de présidentiel proche aux positions des différents candidats qui sont consultables très facilement. Je crois que l'ADMD d'ailleurs a publié sur les réseaux sociaux une petite infographie où on retrouve très simplement ceux qui se prononcent en faveur, ceux qui ne se prononcent pas et ceux qui se prononcent en défaveur d'une nouvelle loi sur l'euthanasie.
Tout à fait.
Je tenais à vous
d'interpellation avec le rappel des différentes positions des candidats.
Voilà. Donc on vous remercie monsieur Aumônier et Juston pour votre participation. Et on espère que ça aura contribué à éclairer un peu le débat sur ce sujet.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.